Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de refermer l'année 2024, je voulais rendre hommage à l'un des grands écrivains qui nous a quittés en novembre dernier, Bretton Breitenbach, auteur sud-africain, peintre également, décédé à l'âge de 85 ans en France, qu'il avait choisi comme lieu d'exil au début des années 60, époque où l'apartheid, les lois de ségrégation raciale étaient encore en vigueur dans son pays natal. Militant, résistant, son combat lui a valu d'être emprisonné 7 ans en Afrique du Sud. Bretton Breitenbach était devenu l'une des voix les plus importantes de la littérature mondiale avec la publication d'une vingtaine de titres, fiction, essais, poésie, en anglais ou en afrikaans, sa langue maternelle. Il maîtrisait aussi parfaitement le français, comme vous allez pouvoir l'entendre dans quelques instants. C'est en effet à l'occasion de la parution de deux de ses livres, un roman et un recueil de poèmes, que j'ai eu la chance de rencontrer cet homme, grand, élégant, au regard intense et à la parole incisive. Deux entretiens à 10 ans d'intervalle, pour La femme dans le soleil en 2015, et pour commencer, Le cœur chien en 2005, qui dans la continuité de Une saison au paradis, racontait son retour en Afrique du Sud. Mais pourquoi revenir là où il avait connu autant de souffrances? C'est la première question que je lui avais posée, Bretton Breitenbach.
Est-ce que vous avez déjà été en Afrique du Sud?
Non.
Ben alors, vous voyez, c'est un pays terriblement prenant, c'est un pays magnifique, majestueux. C'est un pays où la lumière est d'une telle qualité, où les distances sont telles, où les diversités sont telles, où on est tellement mis devant la petitesse d'être humain qu'on ne peut pas s'en défaire quand on n'est pas là. C'est vrai que c'est un pays qui, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres aussi, une fois qu'on l'a vécu un tout petit peu, ça fait partie de votre paysage intérieur. C'est un peu la résonance, c'est un peu le spectre à travers lequel, ou le mosaïque justement à travers lequel je vois tout le reste, que ce soit couleur, que ce soit texture, que ce soit langue, que ce soit relation avec les autres êtres humains, etc. Ça, c'est déjà une première chose. Difficile de ne pas vouloir retourner là, de ne pas vouloir retrouver, non pas tellement ses racines, mais quelque chose de l'ordre presque de l'éternel. Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on est là, on est vraiment mis devant le peu qu'on est. C'est un terrible sentiment presque d'impuissance. Le pays est tellement énorme, l'histoire est tellement grande, et dans notre cas, dans le cas du Sud-Africain, tellement sanglant, qu'on se sent parfois les bras coupés. Il y a absolument beaucoup de ça, pourquoi je suis rentré. Et peut-être aussi parce que ce livre, en fait, en parle. Il fallait tirer au clair pour moi-même un certain nombre de choses qui sont de l'ordre personnel, qui ne concernent personne d'autre. Ma naissance, ma famille, d'une façon intime, les ancêtres. J'arrive à avoir l'âge que mes parents ont eu quand je les ai connus pour la dernière fois, plus ou moins. Ou mon grand-père, peut-être, quand je l'ai connu pour la première fois. Donc il y a ça, il y a peut-être à essayer de voir, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, si on peut l'appeler presque génétique, culturel? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été transmises dont vous n'êtes pas au courant? Et cette partie-là du pays particulièrement, bien que ça s'inscrit bien sûr dans un contexte sud-africain, mais ce coin-là m'a passionné depuis très longtemps déjà, parce que c'est pour moi la partie où il y a eu la plus grande interaction entre gens d'origine différente. Peut-être vous étiez à même de pouvoir avoir cette interaction poussée le plus loin, parce qu'il n'y avait pas un tel décalage de classe ou de richesse ou autre. C'est des pauvres blancs qui sont allés là, ils ont rencontré des pauvres restants des peuples Khoi et peuples San qui ont été bien sûr éparpillés, qui ont été disloqués par l'occupation. Mais à partir d'un certain moment, faisant partie de la même culture, parlant la même langue. Donc il y a une certaine homogénéité, avec toutes les différences bien sûr. Et ça, ça m'a toujours passionné de voir qu'est-ce que ça donne comme produit. Quel est ce produit hybride qui est né là, cette espèce de sud-africanisation qui a pu s'opérer là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons de différents ordres pourquoi je suis rentré.
Ce texte s'ouvre sur une phrase déterminante, « Je suis mort ». En fait, il s'agit de l'enfant que vous avez été,
oui,
qui est mort.
cet enfant sur les traces duquel vous allez tout au long de ce voyage. Mais est-ce que c'est en effet pour vous souvenir de vos origines? Et encore, quand je dis souvenir, c'est peut-être un bien grand mot. J'ai l'impression que c'est pour prendre connaissance de vos origines que vous auriez oubliées, qui se seraient échappées de vous. Ou alors, c'est pour combler vraiment cette absence, ce déracinement auquel vous avez été contraint. Comme pour rassembler une partie de vous physiquement, mentalement, parce que vous avez été presque démembré.
Oui, il y a sûrement beaucoup de ça. Il y a cette volonté d'en terminer aussi avec quelque chose, c'est-à-dire de retrouver peut-être ce qu'on n'a pas connu, parce que, bien sûr, je découvre des aspects de moi ou de ma famille ou de mon environnement que je n'ai pas connu. Et peut-être le situer une fois pour tout pour pouvoir le mettre de côté, pour pouvoir l'enterrer, pour pouvoir dire réellement « oui, je suis mort ». Parce que tant que ce n'est pas le cas, on a l'impression de traîner avec soi une partie qui n'est pas achevée, une partie auquel on n'a pas accès et qui reste comme une énigme. Il est vrai que peut-être parce que je suis parti de l'Afrique du Sud relativement jeune, j'avais 20 ans, je n'avais jamais vraiment eu le temps d'intégrer cette enfance, tout particulièrement, d'une manière normale. Je pense que si on habite, même si c'est dans le même pays, mais dans une espèce de lignée ininterrompue avec son passé, avec son enfance, on a peut-être plus normalement la capacité de la digérer, de la faire partie de soi. Je me suis sorti de là, j'ai dû refaire une autre vie entièrement. L'Europe et l'Afrique, à cette époque-là, étaient deux entités complètement différentes, de tout point de vue d'ailleurs. Donc on se réinvente quelque part aussi. C'est presque comme si ma vie avait commencé à 20 ans en Europe. J'ai un peu délibérément fait l'impasse ou le blanc ou le vide sur ce passé-là parce qu'il était inaccessible. Peut-être aussi parce qu'il était trop douloureux. Peut-être parce que c'était une cassure. Bien sûr, comme je dis, peut-être, je ne sais pas si je le dis directement, mais implicitement, toute enfance, tout passé est toujours inacceptable. Est toujours question, est toujours sujet à réinvention, à imagination.
Vous dites, l'écriture, c'est rendre visible la mémoire, mais en même temps, il faut se méfier de cette mémoire. Alors, que peut la littérature ? Et quelle est la place de l'écrivain ?
La littérature peut mettre tout le monde devant ce fait inconfortable que nous serons toujours quelque part des inventions de nous-mêmes. Et ce n'est pas plus mal, peut-être. S'il y a quelque chose, il y a sûrement beaucoup de choses, et peut-être même ce n'est pas vrai, mais je me dis parfois, s'il y a quelque chose qui nous distingue peut-être d'autres formes de vie, c'est que nous projetons, nous serons toujours incomplets. Nous sommes toujours en train d'aller vers quelque chose que nous ne sommes pas encore. On est toujours en devenir. Parce que nous avons à notre disposition quelque chose que nous avons généré, qui est l'écriture ou qui est les formes d'expression artistique, que ce soit la peinture, que ce soit le chant, la danse, ou l'écriture. Et ces choses-là, ces formes d'expression, ces formes de création, ces formes de se créer et de recréer le monde, ont aussi leur propre caractéristique. C'est de la matière. On ne peut pas impunément travailler avec la langue, par exemple. La langue a sa propre mémoire. La langue a son propre éthique aussi. Et donc je pense que la littérature peut servir, écrire peut servir à aiguiser, si vous voulez, la conscience de ça, de ne pas se laisser endormir et de rester éveillé à ça. Et peut-être s'en emparer comme quelque chose de terriblement, de foncièrement stimulant, formidable, parce que c'est une force qu'on peut se faire, on peut se créer, on peut s'inventer. Je ne dis pas que c'est un pouvoir, parce que je suis très méfiant de tout ce qui touche au pouvoir, mais je crois qu'il y a une force, une espèce de non-pouvoir. À quoi sert la littérature, à quoi sert l'écrivain? Ça, c'est autre chose. Je crois que l'écrivain est un monsieur, madame, tout le monde, qui est en train de chanter tout haut tout ce que tout le monde est en train de marmonner tout bas, en principe. C'est de rendre visible ce qui existe déjà. Et peut-être en le rendant invisible, on invente, c'est vrai. Peut-être même que le simple fait de remarquer quelque chose le transforme. Ça, c'est une autre histoire. Mais je ne pense pas. Je pense que ça arrive. C'est arrivé souvent. Dans le cas de l'Afrique du Sud, on a eu des périodes, par exemple, où on a on a eu presque des restrictions. L'attente était tellement forte de participer à travers son écriture à la lutte pour la libération, où on a eu affaire à des véritables commissaires politiques, des censeurs et autres. On en est toujours là, quelque part. Quand des journalistes noirs, par exemple sud-africains, sont trop critiques et qu'ils se font convoquer par le président Mandela quand il est encore président, on peut dire, il faut bien savoir de quel côté vous êtes. Est-ce que vous travaillez avec le peuple ou est-ce que vous travaillez avec, pour vos propriétaires qui sont des blancs pour la plupart? Je parle maintenant des grands journaux. C'est une façon de leur imposer une certaine restriction, une certaine discipline. Ce n'est pas le moment de nous critiquer. Vous savez très bien que nous sortons d'une très grande crise, d'une très grande faiblesse. Il faut être solidaire en ce moment. Ce n'est pas le moment de nous critiquer parce que ce serait comme si vous êtes un de ceux qui sont nostalgiques d'un ancien ordre, d'une ancienne puissance, etc. Toutes ces choses-là sont posées aux Sud-Africains et c'est d'ailleurs avec des effets assez dévastateurs. Trouver maintenant en Afrique du Sud un écrivain qui serait, comment dire, aussi fou de dire les choses exactement telles qu'elle ou lui le ressentent, exactement, je ne pense pas qu'on le trouvera.
Et après cet entretien autour du roman Le Cœur Chien, publié aux éditions Actes Sud, dans une traduction de l'anglais de Jean Guilonneau, suite de l'hommage à Bretton Brettenbach avec maintenant la diffusion d'un extrait d'une émission plus récente en 2015, où l'auteur sud-africain était venu parler de son recueil La femme dans le soleil, aux éditions Bruno Doucet, traduit de l'afrikaans par Georges Laurie. L'occasion de demander à l'écrivain quelle était la place de la poésie dans son écriture. Bretton Brettenbach.
Je dirais que c'est l'essentiel. Je dirais que ce n'est pas là que je vais commencer et ce n'est pour moi pas là que je vais terminer. C'est un fil conducteur. C'est parfois un petit peu la face cachée de la vie de tous les jours parce qu'on est engagé de différentes manières, soit à travers le travail que je fais à l'Institut Gorée, soit quand j'ai enseigné à New York, soit pour des combats politiques. Donc forcément, la poésie disparaît un petit peu dans l'ombre. Mais en fait, le fil conducteur, la véritable raison d'exister, la discipline de vie, la respiration, les rêves, les réflexions, parfois le contact avec les autres, sûrement la tentative un petit peu éperdue de rester en contact avec soi-même, savoir où on est, se repérer, célébrer le lieu dans lequel on se trouve, avoir cette interaction magnifique comme ça peut l'être avec l'environnement, avec les montagnes, la lumière, la texture des paysages, tout ça, ça passe par la poésie.
Dans ce recueil, Bretton Brettenbach, vous citez quelques-unes des figures que vous aimez, que oui. Ce soit Jean Cocteau, Mahmoud Darwish, Ronsard, Yeats, Henri Michaux.
Henri Michaux, Éluard...
Donc c'est un compagnonnage et un dialogue.
Oui, c'est aussi la découverte, bien sûr, à partir d'un certain moment, de tout ce qui était fait, tout ce qui était en train de se faire en Europe. Et puis après viennent les figures, ou peut-être même en même temps les figures, comment dire, éternelles, genre Rimbaud, Verlaine, Baudelaire et compagnie.
Ces poèmes publiés aujourd'hui couvre 40 années d'écriture. Oui. Est-ce qu'en lisant ce recueil, qui pourtant n'est pas chronologique, vous sentez, ou pas d'ailleurs, Bretton Brettenbach, que votre poésie a changé? Et si oui, dans quel sens?
Je ne sais pas. Je crois que la poésie change au fur et à mesure qu'on change soi-même. C'est-à-dire, quand on est jeune, on écrit comme un jeune homme. Quand on est d'âge un peu plus mûr, on écrit, j'espère, d'une façon un peu plus mûrement. On a un autre regard sur le monde. Et puis bon, bien sûr, ça continue. Je pense que je regarde le monde d'une autre manière maintenant, d'autant plus qu'on a quand même le sentiment qu'on ne va pas le voir pour encore longtemps. Donc chaque moment est précieux, chaque événement est magnifique, chaque rencontre est merveilleuse. Est-ce que ça se voit dans la poésie? Je ne sais pas. Pour moi, la poésie est toujours quelque chose vraiment dans le présent. Ça n'a pas de but, ça n'a pas de fin. J'ai toujours été frappé par le fait que la poésie, tout au long de ce siècle et à travers toutes ces différentes cultures, différentes langues, différents usages même, parce qu'il y a des moments où c'est mis en musique, il y a sûrement des moments où il y a une très forte référence religieuse, il y a le paysage qui est spécifique au pays dans lequel on écrit ses poèmes, etc. Mais malgré tout ça, la poésie reste toujours la poésie. C'est peut-être la seule forme d'expression artistique ou de création de l'homme et de la femme, qui n'a pas été modifié depuis le début du temps. Je pense parce que ça correspond, entre autres, aussi à d'autres besoins. Il y a le parti, j'allais dire presque la partie écrite, n'est qu'une toute petite partie de la poésie. Le sens même des mots, ce qu'on voudrait transmettre, la compréhension, n'est qu'un tout petit composant de la poésie. Il y a tout le reste, il y a l'incantation, il y a l'exorcisme, il y a le mouvement, il y a la texture, il y a des couleurs. Toutes ces choses-là, ça n'a pas changé du tout. Yehuda Amichai, un grand poète israélien, avait pour habitude de dire que la poésie, c'est la dernière forme d'expression pour la voix humaine isolée, pour la voix humaine seule, si vous voulez. On ne le fait pas en groupe, mais pourtant, ça ne vous appartient pas. C'est peut-être à la fois ce qui est le plus personnel et qui est le plus partagé, qui est le plus impersonnel.
Est-ce que, contrairement à un roman ou à une nouvelle, peut-être qui se préparent, qui se mûrissent, un poème peut surgir en vous sans que vous l'ayez justement attendu?
Oui, mais est-ce qu'il n'a pas toujours été là? Est-ce qu'on n'apprend pas petit à petit comment faire pour trouver la clé pour ouvrir un petit espace ou pour avoir accès à ce qu'il a? Un poème peut être enclenché par beaucoup de choses, bien sûr. Parfois c'est une phrase, parfois c'est une question, quelque chose qui vous taraude. Parfois, c'est un sentiment très fort, bien sûr, que ce soit de manque, d'angoisse, d'emportement, de colère, d'amour. Ça peut être le facteur d'enclenchement d'un poème, bien sûr.
Oui, il y a donc des moments plus propices que les autres. Et par exemple, je crois à Bretton Rettenbach que vous aviez écrit 400 poèmes en sortant de prison en 1982, après 7 ans de captivité. Rappelons que vous aviez été arrêté parce que vous aviez épousé une Vietnamienne, mariage mixte qui, sous le régime de l'apartheid, était interdit. Et donc, vous avez été condamné, incarcéré, échappant de peu d'ailleurs à la peine de mort. Est-ce que l'écriture de la poésie en particulier a été pour vous, à ce moment, un moyen de survie pendant ces années d'enfermement?
Oui, forcément. Je pense que comme c'était pendant des longs mois d'isolement, la seule manière, la seule façon d'entrer en dialogue avec quelque chose qu'on sort de soi, mais qui existe aussi en dehors de soi, que ce soit un mur, que ce soit une lumière qui passe par les fenêtres, par les grilles, par le cour intérieur, un petit bruit qu'on entend au loin, etc. C'est autant de confort ou de rappel qu'il y a une vie extérieure qui continue malgré tout. Et la poésie est une façon de communier avec ce monde extérieur, avec ce monde qui vous entoure, et avec vous-même, bien sûr. Et la prison était ça, bien sûr. C'est comme une cellule d'un moine.
Est-ce que vous voulez bien, Bretton Rettenbach, nous lire un poème de ce recueil, La femme dans le soleil?
Oui. Le poème s'appelle Neige à Paris. C'est peut-être pas tout à fait typique, mais c'est un moment assez rare. Ça remonte assez loin. C'est écrit dans un hôtel dans le Quartier Latin. Et ça remonte autrefois quand ça neigeait encore parfois à Paris. Maintenant, on ne le voit plus.
Vous vous souvenez de l'année à laquelle
ça doit remonter en 1966-67, par là. Et surgit de la pénombre, en dépit des saisons, la neige à nouveau sous Paris. Ce matin de draps lumineux sur les couvertures grises. Le ciel est étouffé, mouillé toutes les couleurs, léché par une langue étrangère, de réminiscences sans bruit, d'eau forte disparue, d'un moule de papier. Les cheminées fument, une mouette trace un manuscrit sur le blanc calme de frais versés orientaux, et une manche l'efface nette. Allons-nous allumer le poêle, rêver les yeux dans les flammes, les creux, les plongeons, des mots oubliés depuis des lustres, claquant lettre par lettre dans les étincelles, et nous lever dans la buée, nous en aller papillonner par-dessus le blanc panoratoire. Nous souviendrons-nous des maisons mortes et néanmoins soufflerons-nous encore l'amour.
Merci beaucoup, Bretten Brettenbach, pour la lecture de ce poème « Neige à Paris », qui est donc un des poèmes de ce recueil intitulé « La femme dans le soleil ». Alors, ce sont des poèmes en prose, de forme et de style divers, de thèmes variés aussi. On y retrouve les lieux que vous aimez, la nature, le corps féminin. Il y a aussi la violence, la mort, tous ces thèmes traversent ce recueil. Est-ce que d'une certaine façon, c'est votre autoportrait littéraire ?
C'est sûrement la topographie d'une histoire d'engagement, dans le sens large, parce que l'écriture est déjà une forme d'engagement, il me semble. Donc c'est une topographie de ce voyage-là, des différents voyages, différentes expériences. Est-ce que c'est un autoportrait ? Je n'en sais pas trop. J'ai essayé souvent en peinture de faire des autoportraits. Ça finit toujours par être soit des oiseaux, soit des singes, soit des chiens, soit des ancêtres. Donc faire un autoportrait, ce serait difficile à dire.
Le poème intitulé « Très aimé, je t'envoie une tourterelle vermeille » a été désigné fin 2014 comme le plus beau poème jamais écrit en afrikaans. On le découvre ici. Par un jury composé de poètes sud-africains et néerlandais. Je ne vais pas vous demander, Bretten Brettenbach, si vous en êtes heureux, c'est évident. Mais en revanche, c'est l'occasion de parler avec vous de cette langue, l'afrikaans, dans laquelle toujours vous écrivez vos poèmes, mais pas vos autres textes, qui eux sont rédigés en anglais. En quoi l'afrikaans s'impose pour vous comme la langue poétique ?
Alors là, assez curieusement, parce que c'est à la fois une langue qui, bien sûr, est toute jeune, parmi les plus jeunes du monde. Il a été reconnu officiellement comme langue officielle du pays en 1920 pour remplacer le néerlandais. L'anglais était déjà accepté comme langue officielle du pays. Maintenant, il est de moins en moins de nouveau. C'est une langue en déplacement, c'est une langue en mouvement, ce qui me parle beaucoup. C'est une langue de créolisation. C'est une langue de mélange d'origines très, très diverses. On y retrouve des traces de langue de l'Extrême-Orient, de langue du pays même, du portugais qui était parlé dans les ports tout au long des côtes africaines, et bien sûr des dialectes néerlandais qui sont, disons, la source ou les sources essentielles derrière. C'est une langue qui est très paysan, qui porte en soi les références très fortes de l'histoire vécue des peuples qui l'utilisent, et d'ailleurs la majorité qui l'utilisent ne sont pas d'origine européenne, sont des métis du Cap. C'est une langue qui a comme langue orale, disons littérature orale, cette force d'être très expressif, d'avoir trouvé des sons et des mots très spécifiques pour identifier quelque chose. Parfois très drôle, bien sûr, il y a beaucoup d'humour. C'est une langue qui est très marquée par des croyances assez profondes chrétiennes, musulmanes aussi. Le premier livre imprimé en langue afrikaans, c'est un caractère arabe imprimé en Turquie pour être utilisé dans les mosquées au Cap par les imams de la communauté malais. Alors vous vous rendez compte ?
C'est très cosmopolite en effet.
Voilà. Donc,
est-ce que c'est une langue d'enfance aussi pour vous ?
Oui. Non, c'est tout à fait la langue dans laquelle je grandis. D'ailleurs, tout le monde le parlait et ne parlait que ça. J'étais monolingual, monolinguistique. Je ne sais pas comment on le dit, jusqu'à l'âge de, au moins pour moi, 7-8 ans. Je n'étais pas conscient qu'il y avait d'autres langues. C'est là où je commençais à entendre d'autres langues à la radio. Mais il y a peut-être aussi une autre raison. Je crois que c'est aussi une langue secrète, très intériorisée, très privée, très intime.
Oui, une langue secrète et en effet intime. Par exemple, ici, deux des poèmes sont consacrés, l'un à votre père, le jour de sa disparition, l'autre à votre grand-père. J'imagine que c'est peut-être que par la poésie que vous pouvez évoquer cette intimité.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, on ne peut pas s'imaginer parler à son père dans une autre langue, celle qu'on a partagée quand on était petit.
In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say, Ongotwane. Iqirha lendlela ngukongotwane Iqirha lendlela kuthwa ngukongotwane Iqirha lendlela hayo ngukongotwane
Et pour finir, un dernier mot de l'auteur à propos de son statut d'écrivain sans concession, voire marginal. Bretton Breitenbach.
Vous savez, moi, j'ai pris l'habitude d'être un facteur de, disons, d'irritation un peu partout où je vais, et ça n'a pas changé. Et parfois, il faut faire attention parce qu'on peut se réfugier dans ça aussi. C'est une forme de confort. Au moins, on sait qui on sait qu'on est marginalisé. Mais non, je ne suis pas écouté, non. Non, sûrement pas, mais bon, ce n'est pas parce que j'ai des choses tellement importantes à dire.
Si vous ne vous sentez pas écouté, l'essentiel, c'est que vous soyez lu, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Un écrivain a besoin d'être lu aussi.
Oui, je taquine souvent mes éditeurs en disant que mon rêve dans la vie, c'est d'augmenter mes nombres de lecteurs de 7 à 11. Mais bon, ça, c'est une
11
boutade.
11 000, vous voulez dire, ou 11 tout court?
Non, 11 tout court. Mais c'est une boutade, bien sûr. Je ne me plains pas du tout. J'ai énormément d'occasions, beaucoup d'occasions de rencontrer des gens, de faire des lectures dans différents endroits, avec différents publics. Et c'est toujours quelque chose de merveilleux. C'est fantastique. C'est toujours de voir qu'il y a des gens qui répondent, qui vibrent. Nous n'en sommes pas encore dans la situation, par exemple, de Mahmoud Darwish en Palestine, où j'ai pu partager une soirée magnifique avec lui, où il lisait une salle comble de gens qui ont traversé les collines pour l'écouter, qui connaissaient par cœur ses vers. Ce n'est pas encore ça en Afrique du Sud, on n'en est pas là. Mais il y a une véritable soif, il y a une véritable écoute de tout âge et de toute origine.
Eh bien justement, voilà un nouveau livre à découvrir, à lire en silence ou en public, à partager en tout cas. C'est ce recueil que vous publiez, Bretton Breitenbach, La femme dans le soleil, traduit de l'afrikaans en français par Georges Laurie et qui est apparu aux éditions Bruno Doucet.
Merci
beaucoup.
Ici se referme cet hommage à Bretton Breitenbach, disparu en cette année 2024 qui s'achève dans quelques jours. Bonne fête à toutes et à tous. Mais n'oublions pas celles et ceux qui sont en peine, et particulièrement Cécile Kohler, professeure de lettres incarcérée en Iran, et Boualem Sansal, écrivain détenu en Algérie, avec l'espoir que 2025 soit une bonne année.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.